Père, Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Puis je te remercie pour le temps de louange qu'on a eu ce matin. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur. Merci pour la joie que tu déposes dans les cœurs des frères et sœurs. Tu dis que la joie du Seigneur, c'est notre force. Puis merci, Seigneur. Puis comme qu'on va voir aujourd'hui en ta parole, tu nous dis que l'amour qu'on va avoir les uns avec les autres, c'est là qu'on va reconnaître que nous sommes tes disciples. Nous sommes tes enfants. Puis merci pour ta parole que tu vas nous enseigner ce matin. Puis grave cet amour dans nos cœurs, puis donne-nous être remplis de ta joie et de ta paix, produit par ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut nous parler un matin sur le 11e commandement. Tout le monde le sait qu'il y a 10 commandements décrits dans Exode 20. Puis là, où est-ce qu'on va chercher un 11e commandement? Dans le Nouveau Testament, parce que c'est Jésus qui l'a apporté, cet 11e commandement-là. Puis là-dedans, dans cet enseignement-là, vous allez voir, c'est la base de toute la révélation de Dieu, dans cet 11e commandement-là. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous appelle à une voie différente de l'Ancien, parce que dans l'Ancien, Dieu il avait établi des commandements. Là, il dit, mettez tout ça en pratique, puis si vous mettez tout ça en pratique, vous allez vivre par elle. Parce que vous allez l'avoir mis en pratique, vous allez comme gagner votre ciel, dans un sens. Mais il y avait d'autres promesses dans l'Ancien qui disaient que mon juste vivra par la foi. La foi a toujours été là dans l'Ancien Testament, mais les gens s'attachaient à la loi puis essayaient de mettre en pratique les 10 commandements et toute la loi de Moïse. Il y avait 613 préceptes dans la loi de Moïse, 613 points qu'ils devaient mettre en pratique. Puis les gens s'efforçaient de mettre ça en pratique pour essayer de gagner leur ciel, de gagner leur place auprès de Dieu. Mais on va voir avec les enseignements qu'on va découvrir de Jésus lui-même puis des apôtres, il y a quelque chose encore plus profond que juste les 10 commandements. Tous les 10 commandements qu'on étudie jusqu'à aujourd'hui, là, on les retrouve, ces enseignements-là, dans le Nouveau Testament. Que ce soit de ne pas faire l'adultère, Jésus et les apôtres en ont parlé, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas convoiter. Tous les commandements, ils en ont parlé. Mais Jésus, il veut nous faire découvrir un 11e commandement. Puis pour le comprendre, mais il faut écouter les enseignements de Jésus, parce que ça vient de Jésus, cette révélation-là. Jésus, il a recentré notre vision du plan de Dieu en mettant notre accent sur l'essentiel. Puis c'est quoi l'essentiel? C'est l'amour. Jésus nous a enseigné dans Matthieu, chapitre 22, le verset 36 à 40. Jésus nous a enseigné que l'ensemble de toute la loi puis les promesses des prophètes découlent de deux plus grands commandements. Jésus est en train d'expliquer que tout l'ensemble de la loi et les prophètes, ça découle des deux plus grands commandements. Parce que quelqu'un qui est arrivé à Jésus puis dit, Maître, c'est quel est le plus grand commandement? Écoutez bien la réponse de Jésus dans Matthieu 22, 36 à 40. Il y a quelqu'un qui arrive puis dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus venait de faire une réponse quand même étonnante. Parce que les gens voulaient savoir quels sont les commandements qu'on doit faire pour être sauvé, pour pouvoir entrer au ciel. C'est ça qui était le cœur des gens à vouloir connaître. Puis là, tout le monde connaissait les 10 commandements. Jésus a sorti 2 commandements. Il a dit, voici le plus grand, puis le deuxième qui est semblable. Puis Jésus, il a même pas pris un des 10 commandements pour répondre. Où est-ce qu'il a pris ça, Jésus? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Puis il dit ça, c'est le plus grand commandement. Mais c'est dans les enseignements de la loi. Ces deux versets-là, Deutéronome 6, 5, ça dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'était même pas un des 10 commandements, c'était une des enseignements de la loi de Moïse qui était ce commandement-là. Et l'autre verset, Lévitique 19, 18, la fin du verset, ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a pris deux déclarations de Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Père qui parlait à Moïse pour retransmettre les enseignements au peuple. Il a pris deux déclarations, puis il a dit ça, là, maintenant, c'est les deux plus grands commandements. Jésus est en train d'amener notre pensée plus haute que juste regarder, fais pas ça à ton prochain, fais pas ça à ton prochain, fais pas ça. Ça, c'était les 10 commandements. Fais pas l'adultère, tu vas faire du mal à ton prochain. Va pas voler, vole pas, c'est encore fais pas ça, puis mens pas, fais pas ça. Toutes des fais pas dans les 10 commandements. Puis Jésus les a pas enlevés, ces commandements-là. Ils sont restés là. Mais Jésus a dit, voici maintenant, selon son enseignement à lui, les deux plus grands commandements. Il a pris le premier dans une parole de Dieu. En réalité, là, toutes les paroles de Dieu, toutes les déclarations de Dieu, c'est des commandements. Même si c'est pas les 10 commandements, notre QG, notre quartier général, il est dans le ciel. Puis notre commandant en chef, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Fait que toutes les déclarations de notre Dieu sont des commandements. Un commandement, c'est quoi ça? C'est un ordre. Quand t'es dans l'armée, puis que le haut commandement donne un ordre, il appelle ça un commandement. Fait que Dieu a déjà donné dans sa parole plusieurs places qu'on voit que Dieu a parlé pour qu'on puisse mettre en pratique telle et telle chose. Mais dans ces versets-là, Jésus a pris ça, puis il a dit ça là, de ces deux commandements-là. Deux commandements-là, c'est qu'il dit... tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit ça, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le mot dépendre, là, qui est dans cette phrase-là, si on va chercher le mot original, ça veut dire, de ces deux commandements-là sont accrochés toute la loi. Et les prophètes, l'ensemble des révélations de l'Ancien Testament sortent de ces deux versets-là. Jésus a voulu ressortir deux versets qui étaient le centre de tout l'Ancien Testament. Puis c'était pas ça que les gens avaient compris. Parce que c'est pas ça que le peuple juif vivait. Tu regardes les écrits suite aux 10 commandements, c'est de la tuerie. De la méchanceté tout le long, on voit des guerres, puis etc. Je sais que Dieu a quand même ordonné ça, mais c'est quelque chose qu'on n'aura jamais vécu nous-mêmes parce que c'était trop horrible. Mais Dieu, il veut nous faire comprendre une vérité, Jésus surtout, parce que Jésus est Dieu, mais quand je dis Jésus, c'est parce que c'est révélé dans le Nouveau Testament. Il veut nous refocuser là, sur les vraies affaires. La vraie affaire, faut que tu apprennes à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Puis un autre commandement qui dit qu'il est semblable, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Paul, il a repris ça, cet enseignement-là dans le Nouveau Testament, dans Romains 13, des versets 8 à 10. Puis il nous a dit que dans ces commandements-là, dans les 10 commandements, ça nous dit, c'est le résumé à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va aller le lire, ça nous dit, dans la partie du verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Celui qui aime les autres, il accomplit la loi. Ça veut dire, si je vous aime, mais je vous mentirai pas, je vous volerai pas, je vous tuerai pas, je convoiterai pas vos biens. Voyez-vous, si tu veux mettre en pratique les 10 commandements, mais si tu veux faire un résumé des 10 commandements, c'est que tu vas aimer ton prochain, puis quand tu aimes, tu es en train de les accomplir. On continue le verset 9. En effet, les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Puis ceux qui peut y avoir se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements, il dit, se résument. Le résumé des commandements, c'est d'aimer ton prochain. Là, le verset 10, qui est comme une conclusion de ça, il dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Fait que quand tu es chrétien, puis tu commences à... T'as reconnu que Jésus, c'était le Messie, puis c'était le sauveur du monde, tu l'acceptes comme ton sauveur. La révélation, la première révélation qu'on voit que Dieu veut nous enseigner, marche dans l'amour. Marche dans l'amour. Aime ton prochain. Adore Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force, puis aime ton prochain. C'est le résumé de toute la loi de l'Ancien Testament. Autrement dit, quand tu pratiques cela, tu es en train de mettre en pratique la loi. L'apôtre Jean, dans ses enseignements, lui, il nous a enseigné d'une façon inversée de ce que Paul venait de dire, que la véritable façon de démontrer que nous aimons les autres, c'est en gardant les commandements. Dans 1 Jean 5, 2, l'apôtre Jean, il dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Ça veut dire, tu veux savoir si tu es en train d'aimer Dieu puis d'aimer les enfants de Dieu, mais si tu m'en pratiques les commandements, tu es une personne qui aime les enfants de Dieu. Il a comme repris le même texte que Paul, mais il le reprend à l'envers. Paul, il dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Tu accomplis les commandements, puis lui, Jean, il dit, quand tu m'en pratiques les commandements, c'est là que tu es en train vraiment d'aimer ton prochain, d'aimer tes frères et sœurs. Jésus, il n'a pas arrêté, dans ce que je vous ai lu tantôt, ils ont demandé quels étaient le plus grand commandement, puis Jésus en a donné deux. D'adorer Dieu de tout son cœur, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ça veut dire ton cœur est en entier à Dieu. Ça, c'est le premier. Le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire tu vas être capable d'aimer les autres jusqu'à la mesure que toi, tu t'aimes. Fait que là, si une personne dit, ben moi, je m'aime pas, fait que là, elle ne se sent pas obligée d'aimer les autres. Elle va dire, moi, je m'aime pas, puis je m'occupe pas de ma personne, puis je me laisse aller, fait que tous les autres, je les laisse aller. Lui, il ne se sent pas obligé de mettre en pratique. Mais on va comprendre que Jésus, dans le Nouveau Testament, il va nous enseigner qu'il en a rajouté un 11e commandement. Dans Jean 13, 34. Jésus nous donne un nouveau commandement d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. C'est bien plus grand que aimer les autres comme toi-même, parce que si tu t'aimes pas, tu n'aimes pas les autres. Mais là, il nous rajoute un commandement, vous allez le voir. Dans Jean 13, 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Tantôt, il a dit, « Voici le plus grand commandement de la loi. » Là, il donne, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'était le plus grand de la loi. Mais il dit, maintenant, Jésus dit, moi, je vous en donne un nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, il faut apprendre à vivre dans l'amour de Dieu. L'amour qui animait Jésus. Ouch. Oui, parce que c'est pas de suite qu'on n'a pas ça dans notre nature humaine naturelle. Parce que si on était une personne sociale, on peut être en cause sociale, mais si on était une personne dans notre nature humaine un peu retirée, puis on veut rien savoir des autres, mais si Dieu vient pas faire quelque chose en toi, tu seras pas capable de vivre cet amour-là. Parce qu'il faut que tu sois rempli de la même chose qui était dans Jésus pour être capable d'aimer les autres comme Jésus a aimé. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il faut apprendre cet amour-là pour la mettre en pratique. Allez chercher Jean 15, le verset 12, Jésus parle encore du même commandement. Il dit, l'amour Aimer comme Jésus, comme l'amour de Jésus, ça veut dire jusqu'à donner sa vie pour les autres. Dans Jean 15, 12 à 14, ça dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Jésus a rajouté une petite phrase à la fin, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est quoi que Jésus nous commande?
De
s'aimer les uns les autres. Il nous demande aussi de mettre en pratique même les plus petits commandements, parce qu'il y a un autre verset qui nous dit, ça veut dire, reste dans l'amour d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Plus, aime les autres, même jusque dans l'amour que Jésus a eu pour nous. Puis il dit dans cette phrase-là, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. J'ai prêché sur l'amour, il n'y a pas longtemps, sur l'amour de Dieu qui avait donné sa vie pour ses amis. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Là, on focus tout le temps. Ouais, mais il a donné sa vie, il est mort. Il ne peut plus rien faire, donc tu vas aimer qu'une fois.
Tout est accompli.
Tout est accompli pour Jésus. Mais est-ce que Jésus nous demande d'aimer les autres juste une seule fois dans notre vie, puis de dire, je donne ma vie, je suis mort pour eux, j'ai accompli ce que je devais faire? Pas du tout, c'est pas juste dans ce sens-là qu'il faut prendre ça. Jésus a dit, donner sa vie, c'est pas juste de mourir pour quelqu'un, mais aussi de vivre pour lui. C'est pas juste mourir pour les autres, c'est de vivre, mourir à soi-même pour vivre pour les autres. Ça fait une différence, vous allez voir. Dans Jean 21, 16, Jésus parle à l'apôtre Pierre. C'était après sa résurrection. Jésus venait de renier Jésus trois fois. Puis là, Pierre, il était découragé. Puis Jésus était ressuscité. Puis là, il se remontrait à Pierre puis aux apôtres, aux autres apôtres. Puis il a parlé à Pierre. Puis vous allez voir qu'est-ce que Jésus veut en venir dans ce verset-là, dans Jean 21, 16. Il dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, là, Jésus est devant toi, tu as une apparition de Dieu devant toi. Tu veux aimer Dieu de tout ton cœur. Jésus, il dit, tu m'aimes-tu? Ben là, je dois aimer Jésus de tout mon cœur. J'ai une preuve que c'est lui, Dieu, il est ressuscité. M'aimes-tu? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Oui, je t'aime. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire? Il a dit, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire, paie mes brebis? Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes tous les amis de Jésus aujourd'hui parce que vous faites ce qu'il vous a demandé. Hein? Amen. Vous êtes tous ses amis, moi aussi je suis son ami, puis là je dois aimer Jésus, je dois aimer Dieu. Je dois aimer Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, puis je dois vous aimer de la même amour que Jésus m'a aimé. Puis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prendre soin des autres? Paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis. Fait qu'il me le dit à moi de vous de le faire. Il vous dit à vous aussi. Si tout le monde vous aimez Jésus, puis tout le monde vous voulez aimer votre prochain comme Jésus a aimé son prochain, on va tous prendre soin les uns des autres. Puis quand on va être capable de mettre ça en pratique, là, hein, parce qu'on va être animé de l'amour de Jésus, ben on va être en train de mettre en pratique, puis en même temps, toute l'Église va marcher dans l'amour. Hein? Les gens, quand ils vont nous regarder, ils vont voir quoi? Ils vont dire, c'est vraiment des disciples de Jésus. Il dit, à ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est pas à ceux-ci parce que, en voulant dire, vous avez une très haute connaissance intellectuelle de la Bible. C'est pas un critère. Oui, c'est important de connaître la Bible. C'est pas juste parce que vous avez tous les dons spirituels. L'apôtre Paul a dit, c'est beau, faut avoir les dons, faut aspirer aux dons, mais si j'ai pas l'amour, je suis rien. Ça veut dire que la première chose qu'on doit rechercher, c'est de s'aimer. Puis quand tu commences à t'aimer, les gens vont, hey, ça c'est des vrais chrétiens. Ils vont dire, l'Esprit de Dieu est vraiment là. Puis là, il va avoir aussi les enseignements de la parole, puis il va avoir aussi les dons. Mais la priorité, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de Jésus a été jusqu'à aimer ses ennemis. Dans Romains 5,8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, puis Christ est mort pour nous. Il est mort pour des pécheurs, il n'est pas mort pour des justes, il n'est pas mort parce qu'on le méritait, qu'on était bon, qu'on était fin. On ne méritait rien, on n'était pas fin. On était seulement digne d'irriter l'étang de feu à cause de nos rébellions contre Dieu puis nos péchés. Puis Dieu prouve son amour envers nous. On était des pécheurs, puis Jésus est venu payer pour nous. Y a-tu de l'amour là-dedans? D'aimer ses ennemis au point de mourir pour eux? Mais Jésus nous demande à nous, hein? Jésus nous demande aussi à nous d'aimer nos ennemis. Ouch! Dans Matthieu 5, 43 et 44, ça nous dit, Jésus nous ordonne de faire comme lui. Nous aussi, nous devons aimer nos ennemis. S'il y a bien de quoi de difficile à faire, c'est vrai que des fois, on va dire, il mérite que je l'haïsse, il m'a fait du mal, il m'a dit des paroles blessantes, il m'a blessé, il m'a frappé, il m'a fait du mal, il m'a volé, peu importe les actions, il a tué quelqu'un de ma famille, peu importe les raisons qu'on peut se donner, Dieu veut qu'on arrive à aimer comme Jésus a aimé, il veut qu'on s'aime les uns les autres comme lui a aimé. Puis lui était prêt à mourir pour ses ennemis, puis il nous demande à notre tour de mourir à nous-mêmes, puis de vivre, puis d'aimer nos ennemis. Il nous dit ça dans Matthieu 5, 43, 44. Puis regardez bien la première bout de la phrase, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Ça, il avait appris ça dans la loi de l'Ancien Testament. C'est anormal que tu aimes ton prochain, mais tu haïs ton ennemi. C'était ça qu'il avait appris dans la loi. Mais moi, je vous dis, là, c'est Jésus qui parle. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand tu es animé de l'amour de Dieu, tu aimes vraiment Dieu tout ton cœur est tout entier à l'Éternel, puis que tu aimes ton prochain, là, j'en ai quelques-uns devant moi aujourd'hui, ça c'est notre prochain, les proches, notre famille, nos proches, les autres, mais des fois on voudrait les exclure de notre environnement, mais Jésus veut que tu aimes même tes ennemis, sois animé d'un cœur à vouloir leur faire du bien, les bénir, prier pour eux autres. Puis quand tu vas faire ça, il dit, c'est comme ça qu'on va reconnaître que tu es un enfant de ton Père Céleste. Parce que notre Père Céleste, tu liras les quelques versets plus loin, il envoie sa pluie sur les bons et sur les méchants, puis il répand ses bontés, il exauce même les gens, quiconque demande reçoit. Fait que Dieu, il est amour, puis Dieu veut aimer, puis veut aider, veut secourir, puis il s'attend à ce qu'on ait la même attitude. Là, on va regarder quelques versets sur l'amour, principalement envers les frères et sœurs, parce que Jésus nous l'a dit dans Matthieu 25, il dit, « Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Fait qu'à chaque fois qu'on est en train d'aimer des frères et sœurs, puis qu'on sert les frères et sœurs, on les paie, on les nourrit, on leur fait du bien, on les entoure, on se visite, on s'encourage. Tout ce qu'on peut faire, de se donner à manger, puis de se donner du vêtement, puis les services qu'on peut se rendre, on se visite, etc. C'est comme si on le fait à Jésus.
Amen.
C'est comme si on le fait à Jésus, parce que Jésus est entré dans vos cœurs par la foi, puis moi aussi, fait que chaque fois que je rends service ou que je dis des choses, je suis en train de le faire à Jésus. Dans 1 Jean 4, 21, l'apôtre Jean dit « Aimez nos frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Jusqu'à là, ça va. 1 Pierre 1, 22, il pousse un petit peu plus loin. Ça nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ça, là, c'est comme si on arrive à Jésus dans le premier, il dit « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Puis il dit, dans ce verset-là, « Aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. » Autant qu'on peut être attaché à Dieu, ben vouloir tellement l'aimer que notre cœur est attaché à lui, puis on se met à son service. Mais si je vous aime à ce même niveau-là, je vous aime ardemment, de tout mon cœur, je vais vouloir être à votre service, et à vouloir vous entourer, puis prendre soin de vous. Puis vous aussi, ça doit être la même chose, parce que ça dit pas, il y a qu'un qui doit aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. Faut apprendre en tant qu'Église du Seigneur à développer l'amour. L'amour de Dieu en nous, puis ce qui nous amène, on va le voir dans d'autres études, la prochaine étude de mercredi et la prochaine étude de 2 semaines plus tard, d'un autre mercredi, à rajouter à notre foi l'amour fraternel, par rajouter à l'amour fraternel, la charité qui est l'amour de Dieu. Dieu veut nous développer à ce qu'on marche dans l'amour, puis c'est là qu'on va être une église en feu. Lorsqu'on parle d'un commandement, on parle aussi de conséquences. Puis on parle aussi, vu que c'est la parole de Dieu, c'est tranchant. Les commandements, là, tu vois que les commandements sont donnés, puis il y a plein d'autres paroles de Dieu qui dit « Enfreins-les pas, ces commandements-là, parce qu'il y a des conséquences. » Mais sur ce commandement-là que Jésus nous a donné, dans le Nouveau Testament, il y a des conséquences négatives. Puis ils sont pas là pour nous juger, nous condamner, puis de nous amener dans l'abattement, puis de se sentir rejeté, pas du tout. Chaque fois qu'on lit des paroles comme ça, il faut regarder le côté positif, que c'est possible que je sois comme ça, puis Seigneur, que je sorte de cette situation-là, que je reste plus dans cet état-là. Parce qu'on va voir qu'il y a des positions qu'en tant que chrétien, on peut se penser bon chrétien, puis on se pète les bretelles, puis si on est comme ça, mais on n'est pas véritablement chrétien. On n'agit pas vraiment en chrétien. Puis là, il faut se repentir, puis demander pardon au Seigneur, puis demander que le Seigneur change ça dans notre vie. On va aller voir 1 Jean 2, 8 à 11. Celui qui se dit dans la lumière, que là, je suis en communion avec Dieu. Là, on s'auto-proclame, on se dit, c'est correct de se penser qu'on est dans la lumière, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur, puis on veut marcher selon sa parole. Mais celui qui dit qu'il est dans la lumière, qu'il est en communion avec Dieu, et qu'il est son frère, ça peut-tu arriver qu'un chrétien haït un autre chrétien?
Oui.
Oui. Je dis pas qu'il faut que ça arrive, mais ça l'arrive. Malheureusement, ça l'arrive. C'est pour ça qu'il parle de ça dans ce verset-là. Ça dit, là, je vais vous dire mon introduction. Celui qui se dit dans la lumière, en communion avec Dieu, puis qui haït son frère, ça nous dit qu'il est encore dans les griffes des ténèbres, puis qu'il le rend aveugle. Tu peux être un chrétien sauvé par la grâce de Dieu, par le pardon, puis arriver un moment dans ta vie que tu vis des choses avec d'autres chrétiens, puis là, tu te mets à les haïr, puis tu te rends pas compte que les ténèbres t'ont regrippé. Autant que quand tu as donné ta vie au Seigneur, le Seigneur t'a sorti des ténèbres puis t'a emmené dans la lumière. Là, tu penses que tu marches dans la lumière puis tu te mets à haïr d'autres chrétiens. Ça nous dit dans ce verset-là, vous allez le voir, on va aller le lire dans 1 Jean 2:8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Là, il nous parle du commandement nouveau que Jésus nous a donné. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, il est encore dans les ténèbres. Tu dis que tu es en communion avec Dieu, que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es connecté avec Dieu, puis tu as de la haine pour un autre chrétien. Pense pas que tu es connecté, tu es encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus nous a demandé d'aimer les autres comme lui nous a aimés. Fait que ce qui devrait nous animer, c'est un amour continuel envers notre prochain. Surtout nos frères. Là, il dit, t'es dans l'église, puis là, tu te mets à haïr un frère. Peu importe la raison, qu'est-ce qu'il t'a fait, tu te mets à haïr un frère. Tu te mets à haïr celui dans lequel Jésus habite. Là, ça dit dans ce verset-là, celui qui dit qu'il aime Dieu, puis qui se dit dans la lumière, mais qui haït un autre, il est encore dans les ténèbres. Ça nous dit au verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il sait pas où ce qu'il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Fait que si on faut s'examiner soi-même, si on a de la haine dans notre cœur envers un chrétien, on est dans les ténèbres. Puis il faut les ténèbres ont aveuglé nos yeux. Puis il faut demander pardon au Seigneur.
C'est pareil aux chrétiens
tout. Oui. En réalité. La haine, ça ne devra pas exister dans notre cœur. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. On va le voir, d'autres déclarations au niveau de ce commandement-là à propos, faut marcher dans l'amour. Mais si on se met à haïr, il y a des choses à déclarer. Comme là, dans ce verset-là, ça nous dit, tu es encore dans les ténèbres te tiennent encore agrippés. 1 Jean 4:20. Ça nous dit que celui qui n'aime pas, il est déclaré menteur. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Fait qu'un enfant de Dieu doit aimer tous ses frères. Si on dit qu'on aime Dieu puis qu'on n'aime pas notre frère puis qu'on l'haït, peu importe la raison pourquoi qu'on l'a haï, t'es un menteur. Parce que comment tu peux dire que t'aimes Dieu que tu ne vois pas, puis t'aimes pas ton frère que tu vois? Pourtant, Dieu habite dans ce frère-là. Puis quand t'es menteur, vous savez qu'on transgresse un autre commandement de Dieu qui dit « Tu ne mentiras point ». Dieu, là, c'est comme si sa parole, elle se maintient. Si tu transgresses un commandement, tu deviens coupable des autres commandements aussi. Dans Jacques 2:8, qui est encore dans la même pensée, quand tu commences à... avant, je vais aller voir 1 Jean 3:15. Celui qui n'aime pas, puis qui haït son frère, un autre verset nous dit qu'il est déclaré meurtrier. Un meurtrier, c'est une autre transgression des 10 commandements. Dans 1 Jean 3:15, ça nous dit « Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Dans Jacques 2:8, je vais vous dire encore un autre passage qui a un peu rapport. Quand tu te mets à haïr quelqu'un puis tu fais des exceptions de personne, tu dis « Ah, lui, c'est un pauvre. » On va lui dire « Reste-toi à terre. » Puis un riche, on va lui dire « Prends la place d'honneur. » Dans Jacques, quand il nous dit ce passage-là, dans Jacques 2:8, il nous dit « La loi royale, c'est d'aimer ton prochain. » Il dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Il parle à des chrétiens, là. Des chrétiens qui pourraient être déclarés transgresseurs de la loi. Quand un chrétien haït, c'est pas léger. Parce qu'il est en train de transgresser plusieurs des commandements. Il est déclaré menteur, il est déclaré meurtrier, il est dans les ténèbres. Puis le contraire de ça aussi, ce qui peut nous rassurer, quand tu marches à jour dans ta communion avec Dieu et avec ta communion avec les frères et sœurs, puis que tu aimes tous tes frères et sœurs, malgré les difficultés que tu peux avoir dans ta vie, imaginez que ça, mettons, il y en a parmi vous qui sont fait un an, qui sont chrétiens, il y en a d'autres qui sont 30 ans. En 30 ans de vie chrétienne, essayez de réfléchir à toutes les personnes chrétiennes que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez de l'amour pour tous ces chrétiens-là? Est-ce que vous gardez de la haine pour ces chrétiens-là? Si oui, il faut s'en débarrasser, parce qu'on est aveuglé et on marche dans les ténèbres. Ils nous demandent de les aimer. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, il n'y a pas de condition. Si tu as dit ça ou si tu n'as pas dit ça, c'est aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Mais il y a des points positifs, par exemple, quand tu réalises que tu aimes tout le monde. Dans 1 Jean 3,14. C'est comme si quand tu sais que tu aimes tout le monde, tu es rempli de l'amour de Dieu, puis tous les chrétiens, que tu as eu des conflits avec des chrétiens, mais tu as réussi à passer par-dessus tous tes problèmes que tu as eu avec eux, puis tu les aimes encore malgré les problèmes que tu as eu avec eux, ça démontre que tu es vraiment sauvé. C'est ce que ça dit dans 1 Jean 3,14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça veut dire, si vous êtes en train d'aimer tout le monde malgré leurs problèmes, leurs difficultés, je dis pas que vous n'avez pas de combat, des fois ça peut arriver, tu viens juste de manger comme une bonne claque par un frère qui te dit des paroles blessantes puis qui t'a humilié devant tout le monde. Ça, je donne un exemple. Puis ça vient d'arriver, là vous êtes dans un combat, vous cherchez ce qu'on devrait chercher, à vouloir continuer à l'aimer, là c'est premièrement d'y pardonner, ça fait encore mal là, mais t'as décidé, en pardonnant, d'y remettre sa dette. Un véritable chrétien qui veut marcher dans l'obéissance à Dieu, il va se dire, faut que je lui pardonne, ça me fait encore mal, j'ai encore la joue enflée. Ou ton cœur est brisé parce que tu as eu une blessure. Mais, première chose, tu décides d'y remettre sa dette. Seigneur, j'y pardonne. Là, Seigneur, je te demande de me guérir en deuxièmement. Là, après ça, tu demandes à Dieu de te guérir. Parce que si tu pardonnes pas, faut pas que tu penses que Dieu va t'exaucer parce que tu es en train de marcher contraire à ce qu'il te demande. Si tu commences à l'haïr et à vouloir le rejeter, tu es en train de marcher contraire à ce qu'il te demande. Il faut que tu arrives à, malgré les souffrances que tu vis, malgré les peines, malgré les blessures, pardonne-y. Deuxièmement, demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu qu'il te remplisse ton cœur de son amour pour être capable de lui pardonner, puis de l'aimer, puis de lui faire du bien. Puis ça nous dit à nos ennemis de les bénir, de leur faire du bien, de prier pour eux, puis etc. Être chrétien, en fin de compte, c'est un mode de vie, puis le mode de vie de l'amour. Puis si tu es capable de vivre ça parce que tu as le contact avec Dieu, là, tu es rempli de la présence du Seigneur, mais tu as une personne que tu as une blessure, puis tu es capable d'y pardonner, puis tu es capable de commencer à l'aimer malgré ce qu'il t'a fait, dans nos cœurs, puis dans mon cœur ou dans vos cœurs, si vous vivez ces choses-là, sachez que c'est une preuve que vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes capable d'arriver à cela. Puis si vous n'y arrivez pas, posez-vous des questions, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on se garde de la haine envers quelqu'un. L'amour qu'on porte aux autres démontre que nous sommes en Dieu et Dieu en nous. L'amour qu'on démontre aux autres, ça démontre qu'on est vraiment en communion avec Dieu. Amen. Dans 1 Jean 4, 11, 12, ça dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Il dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Quand que vous, au moment que vous réalisez que vous vivez l'amour de tout le monde, pas, sans exception, vous avez réussi à pardonner, à passer par-dessus les choses, vous allez avoir une assurance en dedans de vous que vous êtes réellement en communion avec le Seigneur. Puis le contraire va se faire aussi. Si vous entretenez de la haine envers quelqu'un, vous ne sentirez pas l'assurance de faire partie de la famille de Dieu. Vous allez vivre des combats, vous allez vous sentir tout croche en dedans de nous, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir eu des conflits avec un autre chrétien, puis des différents, peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, puis ça nous blesse, on a de la peine, puis là, le moment, le temps qu'on étire ça, là, qu'on décide pas de pardonner, on se sent plus pareil en dedans. Tu perds ta joie, tu perds ta paix, tu commences à te sentir pas rempli de l'esprit, tu sens pas que t'es dans une pleine assurance que t'es en contact avec Dieu. T'es comme mêlé en plus, puis tu sais plus ce que tu t'en vas. C'est ce qui arrive, et t'es dans les ténèbres, là. Tu sais plus où tu t'en vas. Puis si t'entretiens trop longtemps cette haine-là, bien, ça va t'amener à plus te sentir chrétien. C'est pour ça que c'est important, quand tu commences à vivre un problème avec quelqu'un, décider, c'est un choix, tu décides de pardonner, tu décides de passer par-dessus ça, puis tu commences à prier Dieu pour qu'il vienne te guérir ton cœur, puis à prier pour l'autre, il dit de prier pour nos ennemis.
C'est pas facile.
C'est pas facile, mais c'est un combat qui se gagne, puis que c'est possible de vivre, que tout le monde peut le vivre.
C'est pas possible.
Oui, ça dit de régler nos affaires avant le coucher du soleil. Imaginez les petits conflits qu'on vit, là, c'est pas grand-chose, des fois c'est juste des paroles. Imaginez dans les autres pays quand que la guerre entre les chrétiens puis les islamistes, puis il y en a un qui tue un membre de la famille du chrétien, il tue son enfant de 4 ans, puis il le torture, puis il le tue. Pensez-vous pas que le combat est un peu plus dur à vivre pour eux autres? C'est pour ça que même pour eux, ceux qui vivent ces choses-là, c'est possible. J'ai déjà entendu le témoignage d'une femme que son mari était pasteur. Puis il y a du monde qui sont rentrés dans leur maison, ils ont tué les enfants, puis ils ont tué le pasteur. Puis la femme seule a réussi à s'en sortir de cette situation-là. Puis elle a eu pendant un bon bout de la haine pour ses agresseurs. Puis un moment donné, elle a crié à Dieu, puis elle s'est accrochée à Dieu, puis elle a pardonné, puis elle a été guérie dans son cœur, puis elle rendait témoignage que c'est possible, malgré que tu as perdu tes enfants et ton mari, de pouvoir être libéré, parce que ça fait quand tu t'es accroché, c'est que l'ennemi nous tient captifs quand tu as de la haine parce que tu as eu une injustice ou tu as quelque chose de grave qui t'est arrivé. Mais il faut apprendre à aller puiser en Dieu les forces, puis l'amour qu'on a de besoin pour arriver à vivre comme Jésus a aimé. Pensez-vous que c'était facile à Jésus de nous pardonner? Chaque fois qu'on a insulté Dieu dans notre vie avant d'être chrétien, chaque fois qu'on a péché, qu'on a désobéi, puis quand on est venu à lui, il nous a accueillis puis il nous a pardonné. Il nous a acceptés comme qu'on était, parce qu'on a été repentants. Il nous a pardonnés, puis il nous a donné son Saint-Esprit, puis il a commencé une œuvre de faire le ménage dans notre vie. Mais on est venu à lui, tout croche, puis il nous a acceptés. Puis quand que les gens l'ont crucifié, pensez-vous que c'était facile pour Jésus de pardonner s'il y avait du monde autour de sa croix qui était en train de le blesser, puis que le gars, il accepte Jésus? Mais il a pardonné, puis voyez-vous, l'amour de Dieu commence qu'il est prêt à accueillir tout de suite quelqu'un qui se repent, puis qu'il nous demande de faire la même chose. Un dernier verset. Si vous voulez être, pour ceux qui ne le sont pas, si vous voulez être sauvés, ou si vous voulez être exaucés dans vos prières, il y a deux choses qu'il faut faire selon ce verset-là. Dans 1 Jean 3, le verset 22 et 23, je vous laisse avec ce dernier verset-là. quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On a la recette là pour être exaucé dans nos vies, pour recevoir les exaucements de prière. Il dit, quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable. C'est un chrétien qui parle, là, c'est l'apôtre Jean. On garde ses commandements, puis on fait ce qui est agréable à Dieu. Là, après ça, tout ce que tu vas y demander à Dieu va te l'accorder. Il faut mettre en pratique ses commandements, puis marcher d'une manière qui est agréable à Dieu. Puis c'est quoi garder ses commandements? On l'a vu, on a vu les 10 commandements, c'est un mode de vie qui est tout répété dans le Nouveau Testament. Puis là, on a vu aujourd'hui le 11e commandement. On a vu, puis là, on a vu aujourd'hui le 11e commandement que Jésus nous a dit, « Aimez-vous les uns les autres. » Si quelqu'un vit ces choses, ça plaît à Dieu. Puis dans ce moment-là, vous allez avoir une assurance que Dieu va exaucer vos prières, puis vous allez en avoir des exaucements de prières. Le verset 23, ça dit, « Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » La recette est là. On doit mettre notre foi en Jésus, puis on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. On veut-tu vivre une vie bénie, exaucée dans toutes nos requêtes de prière, puis de voir la main de Dieu dans nos vies, qui nous rouvre les portes, qui est avec nous?
Oui.
Oui. Il y a deux choses à faire. Deux choses à comme point à viser. Mettre notre foi en Jésus, premièrement. Mettre notre foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu veux être pardonné de tes péchés, faut que tu passes par Jésus. C'est un lavage que tu dois recevoir. Chaque fois qu'une personne a commis des péchés, son âme est salie, est souillée. Puis ça, ces souilleux-là, causés par le péché, ça les empêche de rentrer dans la vie éternelle, dans le paradis. Il faut passer par Jésus, mettre notre foi que Jésus a tout accompli sur la croix. Il est mort sur la croix, il a versé son sang à notre place. Il était le seul innocent qui est mort pour les coupables. Les coupables, c'est qui? C'est nous. Jésus est le Messie, le Sauveur. Si tu veux être pardonné de tes péchés, puis avoir le don, le cadeau de la vie éternelle, faut que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel. Faut que tu mettes ta foi en Jésus. Tu t'accroches à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardonner tes péchés, puis il va rentrer dans ta vie, puis il va commencer à faire le ménage. Puis la deuxième affaire qu'il te demande de faire, marche dans l'amour des uns envers les autres. Si tu es prêt à t'engager à suivre Jésus, à vouloir marcher dans l'amour de Dieu, dans l'amour que Dieu va te donner pour ton prochain, tu vas plaire à Dieu, puis tu vas faire partie de ceux qui vivent les bénédictions de Dieu. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, ta parole qui nous enseigne, premièrement, de croire en Jésus. C'est ce qu'on veut, Seigneur, te démontrer qu'on croit en toi, puis on t'accepte comme notre sauveur personnel, comme notre Seigneur. Tu es le Seigneur de notre vie. Prends nos vies, on te les donne. On veut te suivre et te servir. On veut marcher en communion avec toi. Mais tu nous dis aussi dans le dernier passage qu'on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Je te demande de nous remplir de ton amour, afin qu'on puisse vivre cet amour-là, qu'on puisse être capable d'aimer notre prochain pour accomplir ta parole qui nous demande de s'aimer comme tu nous as aimés. Je te remercie de ce que tu vas faire dans notre église, dans notre rassemblement. Et je te remercie pour l'amour que tu nous donnes aussi pour tous les frères et sœurs à travers le monde entier. Garde-nous à marcher dans l'amour. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.